On reparle de la loi fiscale qui est repassée en commission de l'économie hier. On s'intéresse aussi à l'économie du tourisme avec le président de la Chambre territoriale des comptes avant de revenir sur une opération de lutte contre les stupéfiants. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Et on commence par ce dialogue de sourds autour de la loi fiscale.
Peu d'informations et peu de réponses pour les élus de l'Assemblée hier. Beaucoup espéraient pourtant que la réunion de la commission de l'économie soit l'occasion d'en savoir plus sur les conséquences de l'annulation par le Conseil d'État, vous le savez, de la loi fiscale votée en décembre. Car le gouvernement n'avait pas perdu de temps. Dès la publication des conclusions du rapporteur public, un nouveau projet de loi avait été mis dans les tuyaux. Il est donc passé hier en commission. Commission à l'issue de laquelle les élus d'opposition n'auront pas eu les réponses attendues, notamment sur les intentions du ministre des Finances, Teveiti Pomare, qui pourrait encore faire déposer des amendements en séance plénière. Ce qui agace Tepuara Ori Teri Itaï, représentante du groupe Tapura.
Alors, en face de nous, un ministre qui dénigre, limite les élus et qui dévalorise la décision du Conseil d'État. L'air de dire que, bon, ok, on nous embête avec de la procédure, s'il n'y a que ça, ben, on remet le même texte et puis finalement, il n'y a rien à en tirer. C'est juste un Conseil d'État national qui vient nous embêter. Alors voilà, on a remis ça dans les tuyaux et puis ben, tout va bien, vous allez revoter la loi et puis rien ne changé. Voilà, on avait ce comportement en face de nous.
Et surtout, les élus d'opposition n'auront pas eu de réponse sur les conséquences budgétaires exactes de ce texte, ni sur les moyens que compte mettre le pays pour rééquilibrer le budget 2024, abondé entre autres par les recettes engendrées par cette loi. On écoute Nuiho Loreille, élu non inscrit et chef de file de Ahere Yapolinetsia.
Le budget devient mécaniquement insincère. On pensait que simultanément un collectif allait être présenté. Aucun collectif, on n'a même pas d'indication sur la date où ce collectif va être présenté. Pendant la session probablement, mais c'est de la navigation à vue totale.
Et sur 3 mois, en admettant que le nouveau projet soit revoté rapidement, le manque à gagner net se situerait entre 400 et 500 millions de francs. Pas de quoi inquiéter Tony Géros, le chef de la majorité Tavigny à l'Assemblée, pense plutôt aux besoins bien plus importants de renflouement de l'OPH, de l'OPT ou encore du CHPF, entre autres.
Je pense qu'au prochain collectif, au regard de la nécessité d'équilibrer obligatoirement les situations difficiles qui se passent actuellement au sein de l'ensemble des satellites du pays, je pense que les 400 millions vont représenter une goutte d'eau dans l'ensemble de la nécessité de regrouper les finances qu'on va devoir avoir d'ici là.
Voilà, Tony Géros, après avoir confié sa perplexité devant la décision du Conseil d'État, rappelle surtout que cette loi n'est en rien la réforme fiscale attendue par son groupe. Le président de l'Assemblée espère surtout de plus en plus impatiemment les vraies réformes promises pendant la campagne du Tavigny.
Des chiffres encore, puisque le président de la CTC était notre invité d'hier.
Jean-Luc Lemercier, président de la Chambre territoriale des comptes depuis octobre 2019, a abordé de nombreux sujets sur notre plateau. Alors la Chambre territoriale des comptes, si vous ne le savez pas, est chargée du contrôle des collectivités comme le pays, les communes et leurs groupements, des établissements publics ou des SEM, et aussi des politiques publiques au sens large. Et sa mission, selon Jean-Luc Lemercier, est d'améliorer la gestion publique et d'informer le citoyen. Elle est dotée, en vertu du statut d'autonomie, d'un très large champ de compétences. Avec, selon le directeur, au moins 576 milliards de fonds publics potentiellement à contrôler. La Chambre territoriale des comptes dispose ici de 6 magistrats sur un effectif total de 14 personnes. Et depuis la prise de poste de Jean-Luc Lemercier, une cinquantaine de rapports ont été produits.
Nous avons été productifs. Je suis arrivé fin octobre 2019 et depuis, plus d'une cinquantaine de rapports ont été produits. Ce qui fait d'ailleurs de la Chambre territoriale des comptes une des plus productives du réseau des chambres des comptes, puisque nous produisons entre 3 et 4 rapports par magistrat par an et nous les menons dans les délais les plus faibles de l'ensemble des juridictions financières puisque nous menons nos instructions à peu près autour de 8 mois qui a été l'objectif qui nous a été assigné par le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici.
Et la CTC en Polynésie, elle s'intéresse notamment à la politique touristique du pays. C'est dans ce cadre que ses derniers rapports sur le Tahiti Tourisme et sur Air Tahiti Nui ont été réalisés. Mais les magistrats ne semblent pas enthousiastes. Jean-Luc Lemercier, lui, s'interroge.
Aucun territoire autre pour l'instant que les États-Unis et la France n'ont tenu leurs promesses. 600 000 touristes, il y a plusieurs problèmes, effectivement. Il y a le premier problème qui est majeur, c'est l'acceptabilité sociale. Est-ce que les gens sont prêts à avoir dans la rue 600 000 touristes étrangers? C'est une question qui convient de se poser. Deuxièmement, il y a l'impact vraiment environnemental. Où on met ces touristes et selon l'endroit où on va les mettre, il y a quand même des problématiques, on le voit même dans des îles non touristiques, d'accès à l'eau, de traitement des déchets, l'énergie.
Et le président de la CTC pose un autre problème plus directement financier. Si le pays espère compenser par les recettes touristiques les aides de l'État dans le cadre d'un changement institutionnel, il faut prendre la bonne calculette et l'objectif de 600 000 touristes n'y suffirait sans doute pas.
Il ne m'appartient pas de dire quel est le chemin institutionnel. Je dis simplement que si on réfléchit sur un nombre de touristes pour compenser des aides de l'État, il faut bien chiffrer ce nombre de touristes. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui est toujours mis en avant, c'est les 77 milliards que rapportent les touristes. On oublie que de l'autre côté, les Polynésiens aiment voyager et de leur côté dépensent 32 milliards. Ce qui fait que le chiffre net est bien plus faible. Donc ça voudrait dire qu'il faut augmenter peut-être encore cette cible de 600 000 si on veut vraiment compenser quelque chose.
Voilà, Jean-Luc Lemercier, qui doit encore échanger avec les services du pays sur ce point, ne se risque pas à donner un nombre de touristes qui permettrait à la Polynésie de se passer d'une grosse partie des transferts financiers de la France. Mais la CTC joue aussi un rôle d'aiguillon, ses constats et ses questions aidant à construire les stratégies. C'est en tout cas ce qu'espère Jean-Luc Lemercier, dont vous pouvez retrouver l'interview en intégralité et en vidéo sur notre site radio1.pf et sur notre page Facebook.
On parle justice, les autorités continuent de harceler les dealers et trafiquants.
L'opération baptisée Matei Rorofei a été menée du 15 au 24 mars dans le cadre des opérations nationales Place Net lancées par l'État en vue des JO. Après s'être focalisé courant février sur les infractions environnementales, les autorités polynésiennes sont revenues aux bases, la lutte contre les trafics de stupes. Alors en plus des cyberpatrouilles qui ont été menées la semaine dernière, ce sont près de 150 gendarmes qui ont été mobilisés chaque jour durant la période. Pour des contrôles routiers d'abord, 823 véhicules arrêtés, 226 dépistages, 134 infractions à la législation stupéfiant, dont 31 sanctionnés en tant que délit. Et le PACA est bien sûr au centre de ces contrôles qui ont été menés à Tahiti, mais aussi à Taha, à Bora Bora ou à Moorea. Même mobilisation sur les destructions de plantations, cette fois jusqu'aux Australes et aux Marquises, sans oublier la très prolifique Wahine. Ce sont pas moins de 5130 plants de cannabis qui ont ainsi été saisis et détruits. Les gendarmes ont également mené une quarantaine d'opérations sur des points de deal connus pour récolter au total 2,7 kg d'herbe et 1,5 million de francs. Mais les bons chiffres de cette opération Matei Rorofei suffiront-ils réellement endiguer les trafics très installés au Fénois? Oui, répond Eric Spitz, car cette opération n'est pas isolée. Le haut commissaire rappelle que les services de gendarmerie ont vu augmenter de 42% le nombre de faits constatés à l'initiative des services.
Ça montre qu'on intensifie toujours plus notre combat contre cette drogue qui gangrène la société, qui touche des enfants de plus en plus jeunes et qui même des fois, mais on en est loin de là en Polynésie, mais qui même parfois gangrène des États, et donc nous on doit lutter de manière permanente, de manière à ce qu'elle reste à sa place, c'est-à-dire très marginale dans notre société.
Un discours qui assimile totalement le PACA et l'ICE et qui semble parfois en décalage avec le contexte international, voire le contexte local, vu les efforts du gouvernement pour avancer vers une réglementation et une production locale de cannabis thérapeutique. Pas de quoi troubler le message pour le haut commissaire, pour qui ça n'est pas une bonne idée de légaliser le cannabis. Et les opérations de gendarmerie, elles vont bien continuer à harceler les points de deal et à cibler tous les trafiquants avant ou après les Jeux Olympiques, comme le souligne le colonel Grégoire de Maison, commandant de la gendarmerie en Polynésie.
On est dans une dynamique d'opération qui va se poursuivre parce que on n'est pas dans une opération pour solde de tout compte. C'est une opération amenée à se reproduire dans les semaines et les mois qui viennent. Et évidemment, une fois ces Jeux Olympiques passés, il y aura d'autres directives opérationnelles qui seront données au service et qui impliqueront d'autres séquences opérationnelles. Mais effectivement, la thématique de ce premier semestre 2024, c'est les Jeux Olympiques.
Voilà le colonel de Maison qui était au micro de Charlie René.
Il est 7h09, direction le centre-ville de Papeete avec ce relooking.
Oui, un relooking qui a duré plus d'un an et demi pour l'agence principale d'Air Tahiti. Mi-2022, la compagnie domestique avait déménagé ses guichets un peu plus loin dans les grands locaux du centre philanthropique chinois. Mais c'était pour mieux rénover ses locaux historiques en face du Fare Loto. Des locaux qui ont donc été réinaugurés hier en présence des cadres de la compagnie, mais aussi de nombreux élus et patrons en vue du Fénois. Et puis bien sûr des autorités religieuses qui ont béni les lieux qui devraient voir passer quelques 60 000 passagers dans l'année, devant pas moins de 16 guichets organisés sur deux étages. Clients et agents vont pouvoir profiter d'un espace entièrement réaménagé, même s'ils étaient plutôt à l'aise dans l'agence temporaire, comme l'explique Manate Vaivish, le directeur général d'Air Tahiti.
On a beaucoup aimé notre installation là-bas parce que justement on avait ce volume qu'on n'a pas ici, quoi, en fait. Hein. Donc en fait c'était le principal problème de l'agence qu'on occupait ici. On manquait véritablement de volume pour l'accueil de la clientèle, dû à la configuration même des des locaux, du mobilier, etc. Donc c'est pour ça qu'on a voulu quelque part tout péter et tout agrandir de manière à donner, à restituer de l'attente à l'intérieur, de l'attente à l'étage aussi, pour que le client soit le plus à l'aise. Parce que c'est pour le client qu'on fait tout ça, malgré tout, quoi.
Manate Vaivige qui précise que les nouveaux locaux et le nouveau logiciel de gestion des files doit permettre de réduire l'attente des clients à moins de 5 minutes, alors que certains faisaient la queue plusieurs heures avant la rénovation de l'agence. Le dirigeant explique aussi qu'un Oura a été créé spécifiquement pour les voyageurs fréquents et qu'un autre comptoir, le numéro 7, sera dédié aux patients de la CPS.
On a effectivement un service très particulier pour les passagers que nous transfère la CPS, tout ce qui est évacuation sanitaire non urgente ou alors même urgente aussi. On a toujours un service différent pour un traitement différencié. En fait, pour tout vous dire, notre souhait, c'était d'ouvrir, ça l'est toujours, c'est d'ouvrir un comptoir, d'être en possibilité d'ouvrir un comptoir dans l'hôpital. Et ça fait des années qu'on le demande. Et on n'a jusqu'à présent pas réussi à obtenir cette possibilité-là.
Voilà, Manate Vaivige, directeur général d'Air Tahiti, mais jusqu'à la fin de la semaine, après laquelle il passera les rênes à Edouard Wongfat, qui est depuis novembre directeur général délégué de la compagnie. Manate Vaivige, qui sera notre invité de la rédaction ce matin à 11h30, ne manquez pas ce rendez-vous, nous reviendrons avec lui sur sa riche carrière. On parlera aussi bien sûr d'avenir de l'aérien polynésien. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Restez là, parce que la matinale continue, 7h30, revue de presse d'actualité locale.